Enfin, c'est ça, il se trouve que j'ai eu la chance, la grâce même sans doute, de préciser, bien sûr, de faire plusieurs voyages en Extrême-Orient, et donc pas purement et simplement du tourisme, comme vous en doutez. De fait, j'ai rarement passé une nuit à l'hôtel là-bas. Au contraire, j'étais accueilli dans des maisons religieuses, des paroisses, bref. Donc j'ai pu voir des communautés chrétiennes dans ces pays d'Extrême-Orient, leurs prêtres, des missionnaires, et voilà, donc, ma foi, d'une manière ou d'une autre, même encore un peu distante, assurément, mais quand même, voilà, j'aime rester en contact avec ce qui se passe là-bas, et je ne résiste pas à cette idée que j'ai eue de partager avec vous un témoignage que je trouvais quand même assez impressionnant. Nous sommes à Taïwan. Alors, Taïwan, pour vous situer du point de vue religieux, il y a deux pays dans lesquels, en Extrême-Orient, la mission est particulièrement difficile, c'est Taïwan et le Japon. Rien à voir avec ce qui peut se passer à Singapour, ou en Corée, ou même en Malaisie, ou même en Birmanie. Donc, Taïwan, le Japon, mystère, hein, donc c'est un certain hermétisme des populations, bref. Trouverait-il que, voilà, bon, c'est à Taïwan que ça se passe, et un missionnaire français a accepté, dans la grande ville de la capitale, Taipei, de donner, on l'a invité, de donner un enseignement à des étudiants, qui n'y connaissent rien, bien sûr, hein, suite à ce que je vous ai dit, une présentation, un semestre du christianisme. Voilà, bon, donc, un petit peu comme vous, si par curiosité, pour vous changer les idées, vous iriez suivre quelques cours pour comprendre de quoi l'hindouisme, de quoi ça parle. Voilà, donc, un petit vernis. Donc, ce prêtre français, missionnaire, avouait que bon, ce n'était pas spécialement gratifiant comme ministère, voilà, mais bon, de temps en temps. De temps en temps. Alors, à la fin du semestre, il y a quand même un petit devoir quand même, hein, faut quand même stimuler, vous savez quand même que bon, hein, nos étudiants travaillent quand même un peu mieux si à la fin du semestre, hein, on les menace, entre guillemets, de quelques examens, ou un contrôle au moins. Donc, on réunit ce petit groupe d'étudiants taïwanais, chinois donc, qui ont eu pendant quelques semaines une sorte de vernis sur la Bible, alors là, voilà, Jésus, le christianisme, l'Église, voilà. Et notre prêtre missionnaire, il ramasse les copies, voilà, et sur une de ces copies, voilà, il trouve, voilà. Donc je cite, voilà, donc, notre étudiante taïwanaise: l'homme n'est pas Dieu. Bien, on est d'accord, bon, ça vous paraît peut-être évident à vous, pas forcément si clair, hein, quand on ne s'est jamais posé la question de la religion, mais en plus de ça, un pays où tout est possible, le panthéisme, Donc, quand même là, un bon point, l'homme n'est pas Dieu. Mais notre étudiante... Mais notre étudiante continue: l'homme n'est pas Dieu, mais on se ressemble beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ces deux phrases, notre étudiante, elle a tout dit. Elle a tout dit. L'homme n'est pas Dieu, en effet, il est le transcendant, il est le tout autre, et nous l'avons sans doute évoqué aussi, il y a 15 jours, devant le mystère de la Trinité, qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu? Oui, bon, c'est pas rien, néanmoins. Ça reste tellement en deçà de ce qu'est la vie même de Dieu. L'homme n'est pas Dieu. De ce point de vue-là, parfaitement d'accord avec aussi les croyants musulmans. Dieu est le tout autre. Mais on se ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup. Alors bien sûr, là, vous-même, vous la connaissez, hein, c'est le récit, c'est un cépage qui décrivent le récit de la création, les faits, oui. par les facultés spirituelles qui sont les nôtres, en tant qu'être humain, oui, doué d'intelligence, de liberté, de volonté, nous ressemblons à Dieu, c'est vrai. Voilà. Et qui plus est aussi, nous le savons, hein, dans ce récit, hein, derrière cette image du jardin, hein, dans lequel, à la brise du soir, le Seigneur vient converser avec Adam et Ève, oui, bien sûr, il y a déjà une intimité. On se ressemble beaucoup. Et on se ressemble plus encore maintenant que Jésus est venu. Alors cette ressemblance, elle va au-delà même, hein, de ce que je décrivais, ce qui constitue notre être profond, ces facultés qui sont les nôtres. Oui. On se ressemble beaucoup maintenant parce que nous sommes de la même famille. Et oui. Ah oui, tiens, voilà, les enfants, là, oui, bon, il y a quand même un petit peu, on reconnaît, là, tel ou tel aspect, oui, c'est là, ah, c'est bien son père, sa mère, voilà, puis là, les frères et sœurs, il y a quand même, oui. Et oui, la réalité, elle est là, hein. On peut le dire maintenant, je ressemble à mon grand frère Jésus. Je ressemble à mon grand frère Jésus. Je suis la sœur de Jésus et je lui ressemble. Retenez donc, hein, cette petite parole, hein. L'homme n'est pas Dieu, mais on se ressemble beaucoup. Alors maintenant, quand même, rapidement, ce que je voulais annoncer, hein, les textes de la liturgie aujourd'hui qui, en effet, sont comme un écho à ce que nous célébrions il y a 48 heures. En effet, tout nous parle dans ces textes de l'amour de Dieu. Alors d'abord, bon, hein, il y a une condition. Une condition à observer qui est celle du premier commandement. Alors, premier commandement, quel premier commandement? Enfin, mon père, oui, bon, on n'est pas très savant, mais on sait quand même le premier commandement, aimer Dieu, le second. Premier commandement d'ordre chronologique. Chronologiquement, par quoi faut-il commencer? Chronologiquement, là aussi, hein, vous le connaissez, là, le premier commandement chronologiquement, hein, vous connaissez même en hébreu, hein, Shema Israël, premier commandement, écoute. Alors après, hein, on pourra entendre, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Premier commandement, donc, écoute. Alors je vous invite donc, nous allons essayer d'écouter, de retenir trois paroles de ces textes que la liturgie propose à notre méditation. La première lecture. C'est bien ça, hein. Écoute, si vous écoutez ma voix. Quand je vous dis premier commandement, si vous écoutez ma voix, vous serez mon domaine particulier. Alors voilà, comprenez cette expression, hein, surtout que, hein, notre auteur est explicite, hein, dit, bon, hein, donc, toute la terre m'appartient, vous serez mon domaine particulier, au-delà de ces expressions géographiques. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Mais vous serez ce que j'ai de plus cher. C'est ça. Si vous écoutez ma voix, vous serez mon bien le plus cher. Quand vous disais que, hein, que notre liturgie aujourd'hui nous parle de façon tellement expressive de l'amour de Dieu. Hein. Mais continuons, hein, parce que faut rester quand même dans des limites raisonnables de ces propos. Continuons avec le deuxième texte, Saint Paul, les extraits de cette lettre aux Romains. Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Je crois que, frères et sœurs, c'est une réalité que nous ne méditerons jamais assez. Reconnaissons-le, hein. Quand même, notre premier mouvement à nous, c'est d'aimer les gens qui sont aimables, non? Pas quand même, c'est ça, bon, hein. On n'est pas quand même spontanément porté à aimer tel ou tel, bon, qui, hein, dont le comportement nous agace, nous impatiente, ou que sais-je. Reconnaissons-le. Nous ne fonctionnons pas habituellement comme ça. Et précisément, c'est le contre-pied de cette attitude que prend le Seigneur en nous envoyant son Fils. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors qu'en nous, il n'y avait rien d'aimable. Quel mystère, quel mystère. Donc, continuons avec l'Évangile. Là aussi, quand même, il n'est pas difficile d'imaginer le Seigneur qui est là au milieu de cette foule et dont notre évangéliste nous rapporte qu'il y a ce mouvement, mais qui a été perceptible. Jésus qui est saisi de compassion envers les foules. Et pourquoi ? Parce qu'elles sont désemparées, elles sont abattues, elles sont fatiguées. Et oui, c'est bien notre condition humaine. Oui, nous sentons que, bien sûr, il y a comme notre condition elle-même, avec la mort qui se présente à chacun d'entre nous comme une sorte de butoir et qui peut rendre toute chose tellement précaire. Et puis aussi les conséquences du péché originel qui font que notre esprit s'est obscurci, notre volonté tellement faible. Où aller ? Comment y aller ? Reconnaissons-le, oui, nous faisons bien partie de cette humanité qui tourne en rond comme un animal fauve dans sa cage. Alors, par moments, nous étouffons, nous sommes comme submergés. Alors Jésus est saisi de compassion devant cette réalité. Comment s'agit-il de vivre pour nous ? Comment allons-nous vivre ? Parce qu'il ne s'agit pas de survivre, mais bien de vivre. Alors, oui, il nous faut contempler cette attitude de Jésus avec cette parole aussi qui est tellement consolante, tellement paradoxale aussi. Jésus qui n'hésite pas à dire que la moisson est abondante. Oui, la moisson est abondante, mais enfin là, bon, pour le moment, on en est à... chez nous en France, on en est à 2% de pratique le dimanche. Puis ailleurs, c'est pas tellement brillant non plus. Alors, et néanmoins, Jésus nous invite à cet optimisme. On n'a pas là un optimiste qui, voilà, c'est pas de... Voilà, un optimiste qui est animé par une véritable espérance. Nous butons sur ce mystère. Comment se fait-il que nous-mêmes ici, ce matin, nous sommes quand même si peu nombreux. Oui. Comment cela ? Alors, le Seigneur qui dit, bon, ne réfléchis, ne te focalise pas sur la... Sur cette question, voilà, j'ai la réponse, toi tu la connaîtras plus tard. Mais sois toi-même bien à ton affaire, à ce que tu as à faire. Parce qu'il nous faut l'entendre aussi, cette parole. Elle n'est pas réservée aux 12. Quand Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors oui, il va nous falloir donner. Et là encore, là, nous sommes comme... renvoyé au mystère de la Trinité que nous célébrions il y a 15 jours. Eh oui, même si nos mots sont faibles pour parler de ce mystère de la Trinité, la réalité est bien là. Entre les personnes de la Trinité, le don est total. Elle ne garde rien pour elles. Qu'est-ce qui les distingue ? Simplement leur relation. Paternité, filiation... procession. Il n'y a rien qu'une personne de la Trinité est que l'autre n'est pas. en dehors de cette, cette relation. Alors voilà ce qu'il nous faut imiter, frères et sœurs. À notre tour, sachons donner. Et alors, comme nous l'évoquions au début de ces propos, alors oui, peut-être de plus en plus, chacun d'entre nous, allons-nous davantage ressembler à Dieu.